Radio Okapi.
La milice Mobondo qui sème la terreur dans la partie ouest du pays et déjà dans la province de Congo central. Affirmation du vice-premier ministre, ministre en charge de l'intérieur, sécurité et décentralisation, ce mercredi dans une conférence de presse à Kinshasa. Selon Peter Kazadi, il existe des tireurs des ficelles de cette affaire dans les partis politiques et même à l'Assemblée nationale. Une nouvelle situation de la RDC soumise hier à la Cour pénale internationale par le gouvernement congolais. Rose Mutombo, ministre de la Justice, invite la CPI à focaliser son attention et à initier le processus d'enquête contre la coalition RDF-M23 dans l'est de la RDC. Ingénieur Eslam Rafat est l'invité de ce journal. Il parlera de la pose des géotextiles sur le tronçon Mbujimayi-Kananga. C'est pour solidifier la chaussée en réhabilitation. Bonsoir à tous. La situation sécuritaire dans l'Est et l'Ouest de la RDC, le processus électoral, sont quelques-uns des sujets abordés par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi ici à Kinshasa, parlant de la situation de la milice Mobondo qui sème la terreur à l'Ouest du pays. Peter Kazadi a affirmé que cette milice est déjà dans la province de Congo central. Il a souligné que les tireurs des ficelles se trouvent dans les partis politiques et même à l'Assemblée nationale. Paul Matendo pour plus de détails.
Selon Peter Kazadi, cette milice s'attaque à tous les symboles de l'État, ce qui signifie que son objectif est d'affaiblir le pouvoir en place.
Les renseignements à notre disposition indiquent l'implication de certaines personnalités politiques qui intoxiquent des populations, qui les incitent à massacrer les autres, croyant ainsi fragiliser les institutions de l'État et saboter l'autorité de l'État.
Parlant de la situation politique de l'heure, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur affirme avoir reçu de la CENI le projet de loi sur la répartition des sièges. Le processus électoral est donc irréversible, estime-t-il.
Au moment où je vous parle, une réunion gouvernementale est convoquée à des fins de travailler sur ces projets, les valider et les transmettre au Parlement, parce que cette loi doit être adoptée. Je vais ici dire que le processus électoral est irréversible.
Répondant à la question de savoir pourquoi a-t-on interdit à Moïse Katumbi de se rendre au Congo central, Peter Kazadi dit que cela relevait de l'autorité du gouverneur de cette province.
L'opposition confirme son sit-in pour demain jeudi devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante CENI sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe. Objectif, protester contre le processus électoral en cours qu'elle qualifie de chaotique. C'est ce que confirme ce mercredi à Kinshasa le président du parti politique En Vol et l'un des quatre leaders de l'opposition organisateur de ce sit-in. Deli Sessanga qualifie la décision d'interdiction de cette manifestation par l'hôtel des villes d'une grosse blague. Pour rappel, dans une correspondance adressé aux organisateurs hier mardi, le vice-gouverneur de la ville province de Kinshasa n'a pas pris acte de cette activité à cause du fait que le site choisi est repris parmi les zones neutres, a-t-il dit. Toutefois, Jekoko Mulumba demande aux organisateurs du sit-in de constituer une délégation ne dépassant pas 10 personnes pour exposer au siège de la CENI les éventuelles doléances et observations relatives au processus électoral en cours. Le président Félix Tshisekedi est arrivé ce mercredi en Chine pour une visite d'État. Si aucune signature de contrat n'est prévue lors de cette visite, selon des sources de la présidence de la République, des rencontres avec des hommes politiques chinois, des entretiens en tête-à-tête, des séances de travail ainsi qu'un dîner d'État sont inscrits au programme. Le chef de l'État se rendra dans trois villes, Beijing, Shanghai et Shenzhen. À Shanghai, Félix Tshisekedi visitera les entreprises chinoises dans le domaine de l'électricité, des mines, des batteries et du BTP. À Shenzhen, le numéro 1 congolais visitera des entreprises actives dans les nouvelles technologies. Il faut signaler que c'est la première visite d'État du président Tshisekedi en Chine. Il a pour objectif de relancer sur de nouvelles bases le partenariat Chine-RDC. Le gouvernement congolais a soumis une nouvelle situation de la RDC à la Cour pénale internationale hier mardi et c'est la ministre congolaise de la Justice, Rose Mutombo, qui a déposé une note de renvoi d'une situation au bureau du procureur de la CPI à La Haye, l'invitant à focaliser son attention et à initier le processus d'enquête contre la coalition RDF-M23 dans l'est de la RDC. Jeff Ngoy.
Cette note vise des poursuites et la répression de RDF-M23 ainsi que de toute autre personne impliquée à titre d'auteur ou de complice dans les actes et comportements illicites, caractéristiques de graves violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme enregistrées entre 2022 et 2023. Selon la ministre, le gouvernement congolais reste profondément préoccupé par les souffrances que subissent les populations de la partie de son territoire concernée par des actes faisant objet du présent renvoi. Les exactions commises sur des civils et les pillages systématiques des ressources naturelles par les RDF et M23. Déjà en décembre 2022, lors de sa participation à la 21e session de l'Assemblée des États partis au statut de Rome, le gouvernement avait réaffirmé sa coopération avec la Cour et avait invité son procureur Karim Khan à Kinshasa. Sauf imprévu, cette visite est prévue du 28 au 31 mai prochain.
Justice encore, ici au pays, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a rejeté hier la requête de la défense sollicitant la main levée de la détention de Fortuna Biselele, ancien conseiller privé du président de la République, accusé d'intelligence avec le pays agresseur de la RDC, d'atteinte à la sûreté de l'État. Fortuna Biselele reste en prison et ne pourra pas bénéficier de la liberté provisoire, ce que ses avocats dénoncent. Ils promettent de démontrer l'innocence de leur client à la prochaine audience prévue vendredi. Pourquoi le juge a-t-il rejeté la requête de la défense? Richard Bondo, coordonnateur du collectif de ses avocats, explique au micro de Jeff Ngoy.
Le tribunal s'est appuyé sur le réquisitoire du ministère qui prétend que les faits sont tellement graves qu'ils méritent d'être détenus. Alors voilà pourquoi nous pensons que à l'audience du vendredi, nous apprécierons la conduite des débats par le tribunal pour pouvoir déployer tous les moyens de droit parce que son maintien en détention viole les articles 17, 18 et même 19 et 61 de la Constitution qui parle de la garantie des droits de la défense.
Les jeunes de la communauté Avou du territoire de Calais au Sud Kivu lancent un appel à la solidarité en faveur des jeunes étudiants ayant perdu leurs parents et des biens dans la catastrophe de Calais. Après une descente sur le terrain à Bouchouchou, le constat fait état de 13 étudiants sur 97 de Bouchouchou et Nyamukubi qui ont perdu leurs parents. 15 autres ont perdu leur patrimoine et certains membres de famille, tandis que 69 étudiants de Calais se trouveraient dans une situation d'atteinte psychologique sérieuse. Ces jeunes de la main aux personnes de bonne volonté pour venir en aide à ses étudiants. Prudent Peace Nchavo, président en jeunesse de la Kobakal, communauté des Bahavu de Calais, est dans cet extrait choisi par Rachel Kessimbango.
Le département de la jeunesse Havu que nous sommes trouve nécessaire d'adresser un communiqué de presse faisant appel à solidarité aux personnes physiques et morales de bonne foi en vue d'un soutien et un accompagnement à l'endroit de nos frères jeunes étudiants qui ont perdu leurs parents, sponsors de leurs études, ainsi que leur patrimoine et qui se trouvent à présent dans l'impossibilité de pouvoir achever l'année académique en cours et continuer à supporter ceux qui ne sont pas encore à la fin de leur cursus académique. Ces étudiants sont regroupés dans les différentes institutions et instituts supérieurs de la ville de Bukavu. Cet appel est en même temps lancé aux organisations non gouvernementales et à l'aspect de prise en charge psychologique dans leur domaine d'intervention. Au vu de la grandeur de la situation, nous tendons les mains aux personnes de bonne volonté que vous êtes, en fait de pouvoir venir en aide, étant donné que les études restent pour eux l'unique espoir pour leur avenir.
Dans la province du Maniema, le bourgmestre de la commune rurale de Kalima a rendu public le bilan définitif de la pluie de la nuit du 20 au 21 mai dernier. Selon Kiko Biafata Kifilemon, plus de 600 maisons en paille et plus de 300 maisons en tôle ont perdu leur toiture et ont eu des murs écroulés. À ces maisons s'ajoutent les bâtiments des institutions de l'État et les écoles publiques. Il parle aussi des blessés. Kiko Biafata Kifilemon est au micro de Florence Kizalunga.
La pluie du 20 au 21 mai 2023 a causé beaucoup de dégâts dans la commune de Kalima et ses environs. Les nombres rapportés par les agents des services de l'action humanitaire et solidarité nationale, on a rapporté les nombres des maisons en paille, c'est 660 maisons. Il y a aussi des maisons en tôle, c'est 303, et le nombre des institutions publiques de l'État, 15 écoles publiques de l'État, et 7 pour les écoles privées. Nombre de morts, il n'y a pas, c'est néant. Il y a aussi nombre de blessés, c'est 5. C'est ça, il y a des toitures emportées et des murs écroulés. Il y a certaines personnes qui passent les nuits dans des écoles, dans des centres de santé proches, et aussi dans les maisons des voisins qui sont hospitaliers. C'est pourquoi nous avons plaidé ces cas aux autorités provinciales pour assistance à ces personnes victimes de cette catastrophe naturelle.
Province du Tanganyika à présent, des miliciens Twa ont attaqué plusieurs villages depuis jeudi dernier dans le groupement Bondo, territoire de Kalemie, dans les environs du village Tembwe. Les sources officielles parlent de 3 morts, plusieurs blessés et des dégâts matériels importants, mais selon d'autres sources, il y a une dizaine de morts. Ces attaques provoquent des mouvements de la population. Le point avec Paula Munanga.
Parmi les villages attaqués par des miliciens Twa, il y a Kikonde, Umpola, Lulaba, Kabwema et Kimena. Lundi dernier, c'est le village Miyonga qui a été la cible des miliciens, indiquent certaines sources. Les assaillants tuent, pillent les biens de la population, puis incendient des villages. Dans une conférence de presse ce mardi à Kalemie, le ministre provincial du budget du Tanganyika donne la cause qui a occasionné ces attaques de la milice Twa. Dieudonné Massol.
Il y a un Muntu qui a surpris un Twa en train de voler les épis de maïs dans son champ. Il l'a tabassé et le monsieur a pris fuite. Il est allé prendre des renforts.
Les députés provinciaux du Tanganyika Alexis Katempa demandent aux autorités de prendre des mesures pour sécuriser la population et mettre fin à ces attaques de la milice Twa.
Aux autorités qui ont dans leur attribution la sécurité de prendre des mesures urgentes pour arrêter ces drames.
Le ministre provincial Dieudonné Massol annonce que des dispositions sécuritaires sont déjà prises. Il ajoute qu'une centaine de personnes fuyant les exactions des miliciens Twa sont déjà arrivées à Kalemie. Ces déplacés sont pris en charge par le cadre des concertations humanitaires. Kalemie, Pole Munanga, Radio Okapi.
Le calme est revenu à Luambo, localité du territoire de Kambove, province du Haut-Katanga, après une journée agitée lundi dernier. 2 personnes sont mortes et plusieurs sont grièvement blessées. C'est à la suite de la révolte de certains habitants qui soupçonnaient un tradit praticien d'être l'auteur des cas d'enlèvement des enfants. Une situation dénoncée par l'administrateur du territoire de Kambove qui appelle tout le monde à la retenue et à ne pas se faire justice. D'autres détails avec Jean Gando.
D'après l'administrateur du territoire de Kambove, tout serait parti d'une rumeur qui s'est répandue dans la localité, faisant état de la présence d'un kidnappeur du nom de Karashika. Ce dernier était accusé de travailler en connivence avec un directeur d'école qui faciliterait l'enlèvement des enfants. Pris à partie, il a été récupéré par la police pour sa protection. Les manifestants l'ont ravi de main de la police et l'ont lynché jusqu'à ce que mort s'ensuive. Sa maison a été saccagée et l'école vandalisée, ses enfants tabassés et sa femme grièvement blessée. Une autre personne est morte percutée par un véhicule au moment où tout le monde courait dans tous les sens. Pendant ce temps, d'autres manifestants voulait en finir avec son enfant âgé de 4 ans. Un policier est intervenu pour les sauver. Ce dernier a été aussi grièvement blessé et s'en est sorti avec une jambe fracturée. Au regard de la gravité des blessures, la femme de la victime, ses enfants ainsi que le policier ont été transférés à Lubumbashi pour des soins appropriés par la chefferie de Bayeke, rapporte l'administrateur du territoire de Kambove. Le bureau de la police était aussi vandalisé et tous les détenus ont pris les larges. La police a procédé au tir de sommation pour calmer la population en colère, mais sans succès. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Actualité internationale.
L'acheminement de l'aide humanitaire au Soudan en guerre a encore été impossible ce mercredi au deuxième jour de la trêve entre militaires et paramilitaires, tandis que les médiateurs saoudiens et américains continuent à œuvrer pour mettre en place des couloirs sécurisés. Selon les habitants de Khartoum, dès l'entrée en vigueur d'un nouveau cessez-le-feu lundi soir, des tirs d'artillerie et des raids aériens ont eu lieu. Ce mercredi, ils se sont poursuivis dans la capitale. Le conflit qui dure depuis plus de 5 semaines entre l'armée et les paramilitaires a fait 1 million de morts, plus d'1 million de déplacés et plus de 300 000 réfugiés selon l'ONU. Mais les camps des déplacés qui accueillaient déjà 3,4 millions de personnes avant la guerre sont pleins ou ont été détruits par les combats, rappelle l'ONU.
L'invité.
Au Kassai oriental, l'entreprise Samcret, chargée de construire et de moderniser la route nationale numéro 1 axe Mbujimayi-Kananga, pose depuis la semaine dernière du géotextile pour rendre la chaussée solide. L'ingénieur conducteur des travaux explique les différents travaux qui seront effectués sur cette route. L'ingénieur Islam Rafat s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour, monsieur Islam Rafat. Nous venons de constater la pose du géotextile sur la RN1 axe Mbujimayi-Kananga. Ça ressemble à une nouvelle technologie. Quelle est donc son importance?
La première chose, c'est une protection de la couche de la route. Parce que la couche là, c'est pas une couche naturelle, c'est couche mélangée et remplacée avec les engins. C'est de un pour protéger l'eau qui sort de le souterrain. Ça n'absorbe pas de l'eau, ça va protéger ou bien séparer les couches et tout ce qui est au-dessus. Ça, c'est le premier. Le deuxième, ça augmente même les durabilités de le souterrain. La durabilité du géotextile là, c'est pour 50 ans.
Après avoir posé ce géotextile, quelle est la prochaine étape?
Mais on couvre avec le sable d'abord, et après ça, on met la terre normale. Jusqu'à certains niveaux, on va commencer à mettre le gravier. Il y a deux couches. Il y a le sous-base, c'est le gravier de 35 cm. Et après ça, il y a une autre couche qui est avec 15 cm d'épaisseur avant l'asphalte. Donc, la première étape, c'est le déblai. Comme vous avez vu, l'excavation. Nous, on était au niveau à haut, là. On creuse selon les conceptions de travaux que l'émission de contrôle a fait. On coupe d'abord. Et quand on arrive au niveau de ce terrain-là, on étale, on compacte. J'ai textile, le sable pour 5 cm. Une couche de gravier de 35 cm, après une deuxième couche de gravier, mais la granulométrie de gravier c'est moins, de 15 cm, et après ça c'est les deux couches d'asphalte. C'est ça les étapes. Mais la première étape, c'est pour ça les gens ne sentent pas qu'il y a l'étape, parce que la première étape c'est le déblai, l'excavation. Comme vous allez voir là-bas, déjà l'engin commence à décaper la terre pour enlever, mettre dans la décharge les mauvais matériaux, et les matériaux organiques, les terres végétales, tout ça. Et après ça, la deuxième étape, comme vous avez vu ici, vous allez trouver que c'est retaillé et c'est compacté. On a fait l'arrosage de l'eau pour que ça soit un peu humide, on fait le compactage et après ça, comme je vous dis, on met les couches différentes de la route. De quoi on met le géotextile, c'est systématique après. C'est couche par couche comme ça jusqu'à on termine jusqu'à la couche de gravier.
Ça fait plus de 5 mois depuis que vous avez commencé ces travaux. Ça risque de tirer en longueur. Êtes-vous confronté à certaines difficultés et lesquelles?
Ce qui a nous tardé un peu, c'est que le transport de tous les engins à partir de là où ça arrive, par exemple, Matadi, Bonedito, Lomombashi, n'importe où. Ça, c'est la responsabilité de notre client. Ils ont commencé à faire beaucoup d'efforts. Ils ont en train d'amener le reste des engins, parce qu'on a beaucoup des engins qui sont à Lomombashi. Ils ont 11 camions là-bas, de voitures. Mais à Matadi, il y a aussi le bitume, il y a l'usine d'asphalte, il y a un bulldozer. Il y a beaucoup de choses qui sont toujours dans le port. Et on attend que ça arrive pour augmenter la production de travaux et tout ça. Comme vous voyez, tous les engins sont en fonction. Tout le monde sont là. On travaille. On espère que tout le monde peut nous aider aussi parce que les gens parlent seulement, les gens ne viennent pas comme vous sur le terrain pour voir. Mais c'est mieux que vous êtes venus aujourd'hui pour voir sur le terrain ce qui se passe.
Mais par rapport au délai, hein, donc imparti pour ces travaux, je pense que nous avons déjà dépassé le délai.
Le délai? Oui. Non, le délai de projet, c'est 3 ans. Oui, à partir du jour de la signature du contrat, c'est 3 ans. Jusqu'à Kananga, c'est 3 ans.
Pourquoi ces travaux n'ont-ils pas commencé au niveau du rond-point Petrombo à Kalalawankata?
Oui, ça, c'est très important. C'est très important. Vous voyez ici. Ici, c'est pas une zone urbaine. C'est une zone, on appelle ça rurale. OK. Là-bas, il y a les boutiques. Il y a les maisons, il y a les réseaux différents, par exemple, le régie des eaux. Si même vous allez là-bas, là où les dallos, là où les ouvrages, vous allez trouver qu'il y a 2 tuyauteries en fer. Ça passe dans l'emprise de la route. Si moi maintenant, ça c'est un seul exemplaire. On a le régie des eaux avec le tuyauterie là. On a les fibres optiques pour des autres entreprises, SCPT je pense. Et on a aussi le lambadaire de la société Sénel, tout ça. Parce que la première étape dans le travaux est le levé topographique pour avoir les obstacles. Il y avait l'obstacle que j'ai mentionné là. Aussi, il y avait l'obstacle des herbes qui bloquent l'emprise de la route. On a envoyé pour tout le monde, même notre client, les missions de contrôle, le gouvernement, tout le monde, qu'un dessin, un schéma, qu'il y a toutes les choses qui vont nous bloquer. Ça, c'était l'année passée, hein. Toutes les choses qui nous font l'obstacle pour nous là-bas. Et toutes les choses sont concentrées à partir de PK0, là où le rond-point là, jusqu'à PK4. Ça, c'est la première phase. On a commencé même le travail, les différentes parties, on dit quoi? On dit travailler, et pendant votre travail, les gens vont venir pour commencer à enlever les obstacles pour qu'ils vous continuent. Mais ça, on n'est pas coopéré. Si on travaille, si on casse par exemple, quand pendant le travail, un tuyauterie qui a l'eau pour les gens qui boivent et tout ça, ça sera un problème pour nous, pour l'entreprise qui a le tuyauterie là, et pour tout le monde. C'est pour ça, il y a les étapes systématiques de travaux. Il faut enlever ça. Et ça, il y avait beaucoup de discussions par rapport à ça.
Merci beaucoup.
Merci.
C'est par ici que prend fin ce journal, l'édition vespérale en langue française sur Radio Okapi. Merci à vous tous qui l'avez suivi.